Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
La vie est quelquefois plus difficile, mais le cinéma permet de réinventer, de faire rêver la vie.
Faire rêver la vie, la définition même du cinéma selon Bertrand Tavernier. L'immense réalisateur nous a quittés aujourd'hui. Mais ses films resteront, eux, éternels. De l'horloger de Saint-Paul à Capitaine Conan. Bertrand Tavernier avait 79 ans. Nous lui rendrons hommage dès le début de ce journal. L'actualité ce soir, c'est aussi cette liste qui s'allonge. Le Rhône, l'Aube et la Nièvre vont à leur tour être confinés. Principale annonce d'Olivier Véran qui a exclu pour l'heure une fermeture des écoles. Dans ce journal également, la guerre des doses au menu du sommet européen, les 27 tapent du poing sur la table et menacent Londres et AstraZeneca. La guerre des prix au menu du rapport Papin sur la rémunération des agriculteurs. Plusieurs centaines d'entre eux ont manifesté aujourd'hui à Lyon. Et puis eux ne nous font pas la guerre, c'est plutôt l'inverse. L'éléphant d'Afrique est menacé de disparition pure et simple. La météo, elle restera nuageuse demain avec une perturbation pluvieuse qui va balayer le quart nord-ouest. En revanche, les températures resteront douces, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en petite hausse, plus 0,09% à 5952 points. Tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Didier Hamo de Boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes autour de cette question: comment faire sortir l'épargne des Français? Il n'y a jamais eu autant d'argent sur les comptes bancaires. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un regard qui s'est éteint aujourd'hui, un regard curieux et insatiable qui dévorait le 7e art sans jamais laisser une pellicule de côté. Le cinéma, c'était sa vie et rien d'autre, un laisser-passer pour un dimanche à la campagne ou autour de minuit. L'horloger de Saint-Paul donne un coup de torchon sous le regard de la princesse de Montpensier. C'était ça, Bertrand Tavernier, un réalisateur touche-à-tout, un conteur qui laisse derrière lui certains des plus grands films de ces 50 dernières années. Diane Chenouda.
Oui, c'était un cinéaste brillant, puissant, un fou de cinéma, incollable sur le 7e art, une encyclopédie à lui seul, comme le montre son dernier doc, Remarquable voyage à travers le cinéma français, un amour du cinéma qui remonte à l'enfance. Son premier choc, il l'a à 6 ans, lors d'un séjour en sanatorium devant un film de Jacques Becker.
Je crois que j'étais prédestiné à faire du cinéma, parce que d'avoir son premier choc cinématographique quand on a 6 ans, être épaté par une séquence et découvrir des années après qu'elle est tournée par un des plus grands cinéastes français, on se dit, ben, finalement, à 6 ans, ben, j'étais assez doué, quoi. J'étais en avance, quoi.
Bertrand Tavernier se confie à Isabelle Morizet. Il sera d'ailleurs critique avant de devenir cinéaste. Il s'attaque à tous les genres, polars, films d'époque, historiques, et signe un chef-d'œuvre en 81 sur la France coloniale avec Coup de torchon, nommé aux Oscars, et Philippe Noiret dans le rôle-titre, un de ses acteurs fétiches.
Touche pas mon fusil!
T'as plus besoin de ton fusil.
J'ai mon permis de chasse.
T'as plus besoin de ton permis de chasse non plus. Et si je viens traîner mes grolles par ici, comme tu dis, c'est parce que c'est le chemin pour aller voir ta femme. Et on va pas tarder à se mettre au lit tous les deux. Et elle va me donner à moi ce qu'elle t'a jamais donné, pauvre con. Bouge pas!
Il fera de la comédie aussi avec Quai d'Orsay, adaptation hilarante de la BD. Mais avant ça, bien sûr, le capitaine Conan sur l'armée d'Orient perdue dans les Balkans, qui lui vaut le César de la meilleure réalisation, avec Philippe Torreton qui décroche celui de meilleur acteur magistral dans le film.
Mes gars, c'est pas des soldats, c'est des guerriers. Tu leur as crié depuis 14, bien tué, bien zigouillé, continue, tu m'intéresses. Maintenant que t'en as plus besoin pour te planquer derrière, t'as toute une ménagerie de pantins qui se donne des droits, là. Deviens pas flic, Norbert. Deviens pas flic.
Et puis on se souvient de l'APA aussi, bien sûr, et de L627 sur la condition des policiers.
Écoute-moi bien, le rongeur, j'entends encore une fois ton klaxon et je te fais bouffer ta licence, t'as compris? Allez, va coucher. Connard.
Je supporte plus, un de ces jours je vais en buter un.
Ah, si c'est ton truc.
Bertrand Tavernier travaillait à ses mémoires et à sa collection de livres de western, son autre passion de cinéma.
Portrait signé Diane Chenouda. Beaucoup de réactions ce soir pour saluer la mémoire de Bertrand Tavernier, un réalisateur cher aux yeux de Nathalie Baye. L'actrice avait joué sous sa direction dans le film Une semaine de vacances.
C'est le réalisateur qui m'a offert mon premier rôle principal. C'était un tournage très, très chaleureux, très joyeux, parce que Tavernier avait un enthousiasme et un amour non seulement de son métier de réalisateur, mais aussi un amour des acteurs. Bertrand Tavernier, c'était un homme qui... C'était une encyclopédie au point de vue cinéma. Je crois que je... Il n'y avait pas un homme qui était plus au fait de tout ce qui se passait dans le cinéma et l'histoire de tous les films, des réalisateurs, c'était toujours ludique et réjouissant. Il était passionnant et passionné.
Les mots de Nathalie Baye qui réagissait à la disparition à 79 ans de Bertrand Tavernier, elle répondait à Angèle Châtelier pour Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'autre actualité majeure ce soir, c'est la troisième vague qui déferle de plus en plus fort. 45 600 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. C'est inédit depuis novembre dernier. C'est donc un ministre de la Santé au regard sombre qui s'est présenté ce soir pour son point hebdomadaire. Principale annonce d'Olivier Véran, le Rhône, l'Aube et la Nièvre rejoignent comme prévu la liste des départements soumis aux mesures dites de freinage d'urgence, Anne Le Gall.
Oui, la tendance est à l'accélération de l'épidémie presque partout, a indiqué Olivier Véran. Mais dans ces trois départements, le taux d'incidence progresse à grande vitesse depuis au moins deux semaines, approchant ou dépassant les 400 nouveaux cas pour 100 000 habitants. De nouvelles restrictions sanitaires vont donc entrer en vigueur dans ces zones, dont la fermeture des commerces non essentiels et l'interdiction de se déplacer au-delà de 10 km sans dérogation. Mais dans les 15 prochains jours, la pression sanitaire va continuer à augmenter sur les hôpitaux, a prévenu le ministre de la Santé. Il faudra attendre encore 10 jours avant de constater un éventuel effet des mesures déjà prises sur les courbes. Alors en attendant, pas de changement de ligne, a répété le ministre. Les écoles notamment vont rester ouvertes.
La fermeture des écoles, c'est une décision de dernier recours que nous voulons à tout prix éviter parce que nous savons qu'elle a des conséquences très lourdes sur le développement des enfants et sur le quotidien des parents. Nous ne nions pas que le virus peut aussi se transmettre à l'école, puis de l'école vers les familles. C'est pourquoi, avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, nous travaillerons à des protocoles sanitaires renforcés en sus de ceux qui sont déjà mis en place dans les établissements scolaires.
L'espoir qui se profile, c'est une montée en puissance de la vaccination. D'ici la mi-avril, nous aurons vacciné plus de 10 millions de personnes, a répété le ministre. Nous tiendrons les objectifs fixés avec l'arrivée en masse des doses de vaccins et avec du renfort du côté des vaccinateurs. Les infirmières pourront désormais prescrire et injecter les vaccins et la Haute Autorité de Santé devrait aussi autoriser les dentistes, biologistes, vétérinaires à le faire. Enfin, le ministre a appelé les étudiants et les médecins retraités à venir également en renfort.
Merci. Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Toujours concernant les vaccins, l'Europe n'a pas été assez vite, pas assez fort. Le mea culpa est signé Emmanuel Macron qui s'est confié à Nikos Aliagas dans une interview pour la télévision grecque. Le président a comparé l'Union européenne à un diesel en raison de son démarrage poussif de la campagne vaccinale. L'inverse des Américains qui ont eu, eux, je cite, « plus d'ambition », a reconnu le chef de l'État. Emmanuel Macron qui a l'occasion en ce moment de corriger le tir, sommet européen consacré en grande partie à la guerre des vaccins qui a éclaté ces dernières semaines. Les 27 sont réunis en visioconférence. Objectif, obtenir par tous les moyens les doses prévues dans les contrats. Et pour y arriver, Isabelle Horry, les Européens haussent le ton face à Londres et AstraZeneca.
Oui, et pour ça, ils brandissent des chiffres et une menace. Alors les chiffres, c'est la Commission européenne qui les a révélés tout à l'heure. Ils sont assez saisissants. Depuis décembre, l'Union européenne a exporté 21 millions de doses de vaccins vers le Royaume-Uni, du Pfizer essentiellement. C'est énorme quand on sait que 31 millions de doses ont été inoculées outre-Manche. Ça veut dire qu'elles viennent en grande partie du continent. Or, dans le même temps, aucune dose d'AstraZeneca n'a voyagé dans l'autre sens, alors que le labo a deux usines en Grande-Bretagne. Voilà pour les chiffres. La menace ensuite. Les Européens viennent de se doter d'un nouvel outil. Il permet justement de bloquer les exportations vers les pays qui gardent pour eux les vaccins produits chez eux. Tout ça doit permettre de créer une ambiance plus constructive, si j'ose dire, avec Londres. Ça ne fera pas apparaître des vaccins par magie, reconnaît une source européenne, mais ensemble, on peut faire pression sur AstraZeneca, qui n'a prévu de livrer qu'un tiers des doses attendues en Europe.
Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Ce retard pris par l'Union européenne sur son calendrier vaccinal pourrait coûter cher, non seulement en termes de vie, mais aussi aux finances des États membres. L'assureur Euler Hermès a sorti sa calculette et la facture est astronomique. 123 milliards d'euros pour l'année 2021. Chaque semaine de retard sur le calendrier initial coûte 3 milliards d'euros à l'économie française, selon ses experts. Lui aussi est un expert. Serge Papin, l'ancien patron de Système U, a remis aujourd'hui son rapport au gouvernement. 9 propositions pour que les agriculteurs soient enfin rémunérés correctement. Parmi elles, la fin des négociations commerciales avec la grande distribution sous le modèle actuel. Cette guerre des prix avec toujours les mêmes perdants, les producteurs. Cette rémunération plus juste, c'était pourtant ce que devait garantir la loi Egalim promulguée il y a 2 ans. Un texte inefficace selon les agriculteurs qui l'ont fait savoir aujourd'hui, notamment à Lyon où ils ont envahi le centre-ville avec leur tracteur, Jean-Luc Boujon.
Oui, les agriculteurs ont commencé à quitter la place Bellecour vers 17h. Au total, ils l'auront occupé durant 5 heures avec leurs 160 tracteurs venus de tous les départements limitrophes, le Rhône, l'Ain, la Loire, l'Isère, la Savoie, la Saône-et-Loire. Leur message est inscrit sur de nombreuses remorques. On veut vivre de notre métier, on veut être payé au juste prix, un prix qui tient compte des coûts de production, expliqua Maël, un jeune de 23 ans qui vient de s'installer dans les monts du Lyonnais.
C'est ras-le-bol, quoi. Ça fait 2 ans qu'il y a la loi Egalim qui est en place, on nous promet des prix et il n'y a rien qui suit, quoi. C'est la grande distribution, je pense. Oui. Quand je vois un litre de lait qu'on nous achète à 36 centimes, qu'on retrouve à plus d'1 € en grande surface, la marge, elle est énorme, quoi.
Combien de centimes il vous faudrait pour être bien ?
À 40 centimes, on s'en sortirait bien, quoi.
Voilà, mieux redistribuer, mieux réguler les rapports avec les grandes surfaces, c'est ce qu'ont demandé les agriculteurs, qui estime que le rapport Papin remis aujourd'hui au gouvernement va dans le bon sens, explique Pascal Girin de la FDSEA.
Il est à peu près sur les mêmes longueurs d'onde que ce qu'on propose nous, c'est-à-dire que la négociation des prix se fasse bien dans la cour de la ferme entre l'agriculteur et son premier acheteur et qu'ensuite ce coût de production ne soit à aucun moment remis en cause par les différents intermédiaires qu'il y a entre le producteur et le consommateur.
Voilà des agriculteurs qui ont eu le sentiment d'être entendus aujourd'hui et qui sont repartis avec la promesse d'un rendez-vous la semaine prochaine avec Julien de Normandie, leur ministre de tutelle.
Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Une dizaine de militants du mouvement d'extrême droite Action Française ont fait irruption au conseil régional d'Occitanie, aujourd'hui à Toulouse. Ils ont réussi à entrer de force dans l'hémicycle avant d'être repoussés par les agents de sécurité. Pas de blessés, mais une avalanche de réactions d'indignation, dont celle d'Emmanuel Macron. L'extrême droite a une nouvelle fois montré son vrai visage. Action violente, volonté de bâillonner la démocratie, a dénoncé le chef de l'État. À Paris, plusieurs centaines de migrants ont déployé ce soir des tentes, place de la République, la même où ils avaient été délogés par la police Manu Militari en novembre dernier. Évacuation très musclée qui avait suscité une vive émotion jusqu'au sein du gouvernement. Mais ce soir, c'est calme, nous dit notre reporter sur place. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui un texte visant à lutter contre l'usage détourné de produits courants. En ligne de mire, le protoxyde d'azote, ce gaz aux effets euphorisants, très prisé des jeunes, malgré ses effets pouvant être dévastateurs. On en trouve dans les recherches de siphons à Chantilly. La proposition de loi prévoit notamment l'interdiction de la vente de ces capsules aux mineurs. Il est avec ses cornes et sa trompe l'un des emblèmes de l'Afrique, l'éléphant, cet animal majestueux qui nous fait rêver, émerveille les enfants de Babar à Dumbo. Eh bien, l'éléphant d'Afrique est officiellement une espèce en danger d'extinction. La faute à nous, les hommes, on pense tout de suite au braconnage, mais c'est surtout la déforestation qui menace la survie de cette espèce dont la population est en chute libre, Virginie Salmen.
Oui, il faut imaginer qu'il y a 50 ans, il y avait 1,5 million d'éléphants dans toute l'Afrique. Au dernier recensement, en 2016, il n'y en avait plus que 400 000, essentiellement au Congo et au Gabon. Et selon les dernières évaluations, eh bien, leur nombre a encore baissé. Alors, il y a 2 types d'éléphants d'Afrique. Les éléphants de la savane, dont la population a chuté d'au moins 60% depuis 50 ans et qui vient d'être classé aujourd'hui comme espèce en danger d'extinction. Et les éléphants de forêt, dont la situation est encore plus critiques puisqu'ils sont 86% de moins que dans les années 90. Cette espèce vient donc d'être classée non pas en danger, mais en danger critique d'extinction sur la liste rouge officielle des experts de l'Union pour la conservation de la nature. Ce qui veut dire qu'il faut absolument d'urgence arrêter d'abattre des arbres dans les forêts où vivent les éléphants et mettre un terme au braconnage d'ivoire. Il y a un motif d'espoir. Certains pays africains ont des politiques qui fonctionnent, notamment une zone de conservation des éléphants dans le sud de l'Afrique, à la frontière entre 5 pays dont le Botswana et la Zambie où les troupeaux d'éléphants de savane sont stables, voire en légère augmentation.
Merci Virginie Salmen. On le pensait lui disparu à tout jamais, plus aucune trace depuis 200 ans. Et bien un chef-d'œuvre de Fragonard a été retrouvé début janvier. C'est un commissaire-priseur venu faire un inventaire dans un appartement qui a eu le regard attiré par un tableau ovale suspendu très haut sur un mur du salon. La famille n'y prêtait aucune attention depuis des générations. Le tableau intitulé « Philosophe lisant » a été authentifié et sera vendu aux enchères au mois de juin. Estimation entre 1,5 et 2 millions d'euros. Et puis un mot de foot pour terminer. Cette mauvaise nouvelle pour l'équipe de France, N'Golo Kanté est blessé et donc forfait pour la suite du rassemblement avec les Bleus. Il ne jouera donc pas contre le Kazakhstan dimanche à 15h. La météo, Anissa Haddadi, au programme demain, l'arrivée de nouvelles pluies.
Oui, et dès le début de la journée, hein, Julien, le temps est beaucoup plus humide. En Bretagne et sur la Normandie, le ciel est menaçant dès le matin. Au fil des heures, nous avons une perturbation pluvieuse qui va balayer tout le quart nord-ouest du pays, avec de la Vendée jusqu'aux Hauts-de-France, de la pluie qui sera soutenue hein, d'ailleurs sur le Cotentin et la Normandie. Sur le reste du pays, et en particulier sur la moitié nord, les brouillards couvrent et concernent de nombreuses régions demain matin. Ces brouillards vont se dissiper au fil des heures. Et puis sur la moitié sud, après une matinée assez lumineuse, le ciel va quand même pas mal se couvrir, avec d'ailleurs dans le Tarn un risque d'orage. Les températures, elles sont stationnaires demain matin avec 1 à 7 degrés en général, jusqu'à 10 degrés au bord de la Méditerranée. Et puis dans l'après-midi, comptez 11 à 14 degrés sur le nord-ouest, 11 degrés à Cherbourg, 13 à Lorient, 14 à Caen et 13 à 18 degrés sur la moitié nord. 15 pour Rouen, 16 à Paris, 17 à Besançon et Strasbourg et jusqu'à 21 degrés dans le sud à Cahors et Albi.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Je vous invite à rester avec nous parce que dans un instant, c'est les infos de la bourse Top à Wall Street avec Didier Hamot de boursier.com, suivi de l'interview écho autour de cette question: comment faire sortir l'épargne des Français? Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit dans quelques minutes Eric Heyer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. A tout de suite sur Europe 1. 22h18 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street.
Retrouvez Top à Wall Street avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street tente de se reprendre après la purge subie par le secteur technologique américain ces derniers jours.
Ça remonte un petit peu, c'est un petit peu le bazar. C'est l'expression qui convient le mieux hein, à Wall Street ce soir. Ça part dans tous les sens, il y a eu beaucoup d'écarts en séance, ça baissait, ça remontait. Finalement ça monte un petit peu, plus 0,6 sur le Dow Jones, 32 619 points. Le Nasdaq plus 0,12, un petit rebond, 12 978 points. Le Nasdaq qui a quand même perdu plus de 3% en l'espace de deux séances. Les valeurs de technologie tendent à sursaut, on va dire. On a Cisco, par exemple, plus 1,7%, ou Oracle, plus 2,7%, IBM, plus 1,8%, Apple, plus 0,4%. C'est un petit peu le symbole du jour. C'était vert, rouge toute la journée. $120,59 finalement, Apple en légère hausse. D'ailleurs, plusieurs valeurs ne profitent pas de ce rebond. Amazon, moins 1,3%, Microsoft, moins 1,3% aussi, Facebook, moins 1,2%, après de nouveaux problèmes techniques d'ailleurs sur tout le réseau Facebook. Google est stable ce soir. Le pétrole retombe lui aussi. Ça reste très nerveux hein, sur le pétrole après l'histoire du blocage du canal de Suez. Le pétrole retombe de 4% à $58,40 le baril WTI. Et Exxon finalement termine pratiquement à l'équilibre. L'euro reste aussi assez chahuté, 1,1765 en baisse face au dollar.
La Bourse de Paris a encore hésité en très légère hausse à la clôture ce soir.
Oui, on tourne un petit peu autour du pot, hein. Plus 0,09%, quasiment rien. 5 952 points sur le CAC 40, beaucoup d'hésitation, beaucoup de prudence en raison de la situation sanitaire en Europe évidemment, qui inquiète toujours les investisseurs. Les dégagements ont encore affecté les valeurs industrielles comme GTT ou Holot, moins 3%. Les valeurs pétrolières qui retombent, Vallourec, moins 3%, Technip, moins 3% aussi, CGG, moins 2,4%, Total, moins 1,7%, 38,75 €. Et puis les sociétés foncières avec la crise sanitaire toujours très lourde, Klépierre, moins 2,5%, Gecina, moins 2,5% aussi, et puis Unibail perd 0,8% à €67.
Exception du jour, le titre Quadiant, c'est comme ça qu'on dit.
Exactement.
Qui a fortement progressé.
Oui, Quadiant, c'est l'ancien groupe Neopost, spécialiste du traitement du courrier. Le broker Odo est très confiant sur le dossier qui remonte de plus de 5%, 5,2%, 22,26 €. Le groupe qui est jugé abordable par le broker Odo après une longue traversée du désert. Il faut dire que le repositionnement du groupe Quadiant sur le digital en particulier est jugé très prometteur. Donc ça donne une hausse ce soir de 5,2% sur la valeur, 22,26€ à la clôture. Les autres places financières sont en baisse, moins 0,6% Bruxelles, moins 0,4% Madrid, Milan est stable et le CAC 40 donc en très légère hausse, plus 0,09%, 5 952 points.
Merci beaucoup Didier Hamaud de boursier.com et à lundi puisque demain soirée spéciale rugby France-Écosse à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h sur Europe 1. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Dutheil, c'est à vous.
Bonsoir Eric Ayer.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est pour parler de notre argent, puisqu'il n'y a jamais eu autant d'argent sur les comptes bancaires des Français. Ça peut paraître fou, hein, mais beaucoup de Français essayent de mettre un petit peu d'argent de côté, principalement parce qu'ils ont peur de l'avenir. Et ça se voit particulièrement sur les chiffres du livret A, puisque là encore, pour le mois de février, la collecte a tout simplement été record. Ma première question, Eric Ayer, c'est celle-ci. On a peur, donc on met de l'argent de côté ?
Alors, ce n'est pas uniquement parce qu'on a peur qu'on met de l'argent de côté. Il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, cette épargne est un peu contrainte, c'est-à-dire qu'il y a encore un grand nombre de commerces qui sont fermés. Vous ne pouvez pas partir en voyage et donc une grande partie de ces dépenses qui sont en gros quelque part interdites. Et donc puisqu'on a maintenu le revenu des ménages au cours de cette crise, alors pas de tous les ménages, mais en moyenne, on a maintenu le revenu des ménages et qu'on les a empêchés de consommer une partie de ce revenu-là, cette épargne est arrivée. Donc vous voyez, c'est une épargne très particulière qui est quand même liée au fait que les conditions sanitaires ne sont pas revenues à la normale. Et donc, globalement, vous n'avez pas consommé comme vous l'auriez fait en période normale. Donc, la question est aussi une question sanitaire. C'est-à-dire que...
Mais il y a quand même un petit peu cette idée de peur quand même, puisque quand on regarde les chiffres qui ont été publiés notamment par l'INSEE sur l'argent mis de côté, bien évidemment, ce sont les plus aisés qui en mettent le plus de côté, mais proportionnellement aux revenus, ce sont les moins aisés qui mettent le plus d'argent de côté.
Vous avez raison qu'à côté de cette histoire, de cette idée de consommation contrainte, quelque part, et donc d'épargne qui arrive, il y a ensuite l'idée de quoi l'avenir sera fait. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, il faut rappeler que pour un grand nombre de salariés, le revenu a été maintenu, non pas parce qu'ils ont travaillé, mais parce qu'ils sont en activité partielle. Fin d'année 2020, il y avait encore plus de 2 millions de salariés en activité partielle. Donc, vous voyez, rien ne dit que globalement, ces personnes-là vont retrouver leur emploi une fois qu'on va sortir de ces dispositifs-là. Et donc, effectivement, il y a aussi une prudence, une épargne de précaution qui se manifeste. Alors, parce qu'on se dit que peut-être que la crise sociale est plutôt devant nous, que la hausse du chômage est plutôt à venir.
Donc on met quand même un petit peu d'argent de côté. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Eric Ayer, c'est que si c'est en partie et en grande partie de ce que j'entends de ce que vous dites, parce qu'on ne peut pas dépenser cet argent, est-ce qu'on peut penser qu'automatiquement, quand ça va repartir, quand ça va rouvrir, quand les restaurants, par exemple, vont rouvrir, on va tout dépenser ?
Alors, il y a deux points. Il y a lorsque... les restaurants vont réouvrir, lorsqu'on va revenir dans une situation normale, c'est-à-dire que les frontières vont s'ouvrir et qu'on va pouvoir aussi partir à l'étranger, bon, il y a de fortes chances que l'on revienne à un taux d'épargne normal, c'est-à-dire qu'on va à peu près épargner 14% de son revenu comme on le faisait avant. Mais ça veut dire que tout ce que l'on aura épargné, on ne sait pas si on va le dépenser à nouveau. Et ça, il est aussi possible qu'une partie de l'épargne qu'on a accumulée, vous voyez, il y a 111 milliards d'euros qui se sont accumulés sur les comptes bancaires, qu'une partie retourne dans la consommation, parce que globalement, vous allez vous faire plaisir, vous allez potentiellement dépenser une partie de cet argent lorsque tout sera ouvert. Donc là, on n'en est pas sûr, bien entendu.
Mais une partie sortira sûrement. Bercy, justement, oui. Le ministère de l'économie est en train de se creuser les méninges pour trouver la bonne idée, pour nous donner collectivement envie de dépenser cet argent placé. Si vous deviez avoir une seule mesure, Eric Ayer, à conseiller, ce serait laquelle ?
Le retour de la confiance, c'est uniquement cela. Si vous dites, voilà, on sera toujours là, c'est-à-dire que globalement, on va très vite vacciner un grand nombre de personnes dans la population. Et donc, si vous arrivez à envoyer le signal que la crise sanitaire est plutôt derrière nous que devant nous, si vous arrivez à envoyer le signal qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts dans l'avenir et il n'y aura pas de réduction de la dépense publique non plus dans l'avenir, si vous envoyez le signal que le chômage n'augmentera pas demain, que le quoi qu'il en coûte va rester jusqu'à ce que vraiment la crise économique soit complètement absorbée, alors la confiance des ménages sera au plus haut.
Mais ça, c'est presque le plus dur, puisque c'est quasi impossible à promettre, puisque je pense que même vous n'avez pas de certitude sur comment va se passer cette sortie de crise, tellement elle est inédite. Donc, est-ce qu'il faut des mesures en plus ?
Alors, je pense que le discours compte beaucoup. C'est-à-dire que si vous commencez à avoir un discours sur « il va falloir réduire les retraites demain »,« il va falloir réduire l'allocation chômage demain », il va falloir sans doute rembourser une partie de la dette demain. Vous voyez, toutes ces mesures-là et tous ces discours-là, est un discours qui va entraîner un comportement de prudence. Il va falloir épargner plus pour sa retraite, plus pour s'assurer contre le risque de chômage, plus pour s'assurer contre les hausses d'impôts à venir. Et donc là, l'épargne repartira. Donc je pense que la meilleure mesure, c'est justement de dire que, on va maintenir globalement notre modèle social et on va ne pas entrer dans une austérité, qu'elle soit via la dépense publique ou via les hausses d'impôts.
Et la parole publique n'est pas trop abîmée pour que ce message puisse passer ? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait assez confiance dans ces paroles pour que ça puisse véritablement fonctionner ?
Alors, sans doute pas. Vous avez raison. Et donc, effectivement, si... on est plus crédible dans son discours, alors effectivement, si on ne croit pas au fait qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, si on ne croit pas au fait que globalement la dette publique, on peut la maintenir à 110 ou 115 points de PIB sans demander de l'austérité, alors effectivement, dans ces conditions-là, il serait relativement normal que les ménages soient plus prudents et épargnent davantage.
Un grand merci, Éric Heyer. Je rappelle que vous êtes économiste, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Moi, je vous dis déjà à lundi, tout simplement parce que demain soir, grande soirée rugby sur Europe 1. Vous allez pouvoir suivre ce match si important en direct et en intégralité sur Europe 1. Très bon week-end à tous.
Et ce match, c'est France-Écosse. Merci Emmanuel Duteil. On vous retrouve tout de même à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Au programme, un poste de dépenses que les Français maintiennent en ce moment, la décoration. Et parmi ceux qui en profitent, Maison du Monde, sa directrice générale, sera votre invitée.
C'était l'invité éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On commence avec les échos. Canal de Suez, un grain de sable dans la mondialisation, titre le journal économique qui revient sur ce porte-conteneur qui s'est échoué hier dans le canal. Un monstre de 400 mètres de long, totalement bloqué, ce qui provoque un embouteillage géant sur l'une des plus grandes routes maritimes de la planète. Et le problème, c'est que les opérations pourraient prendre des jours, voire des semaines, écrivent les échos. Le canal achemine 12% du commerce mondial et le coût de ce blocage atteint, tenez-vous bien, 400 millions de dollars par heure. Ce qui, en pleine crise économique liée au Covid, ressemble un peu à un coup de grâce. 2022, Bertrand plastique la droite, c'est le titre à la une de Libération, une qui par ailleurs rend hommage à un autre Bertrand Tavernier, l'immense réalisateur qui nous a quittés aujourd'hui. Le premier Bertrand, si vous me suivez toujours, c'est évidemment Xavier Bertrand qui, en officialisant sa candidature à l'Élysée sans passer par la case primaire, sème la zizanie à droite. Un coup tactique qui entend prendre de court ses concurrents, habileté ou aveu de faiblesse, interroge Libé. Cette déclaration de candidature pose en tout cas nombre de questions pratiques à la droite, ajoute Vincent Trémollet de Villers dans le Figaro. Faut-il se fier au sondage plutôt qu'à une primaire, comme le fait Xavier Bertrand, ou dépendre d'une victoire à un scrutin régional mouvant, c'est qui est la stratégie de Valérie Pécresse et de Laurent Wauquiez. La droite pourrait donc avoir au moins 3 candidats pour 2022, sans compter les Barnier, Retailleau ou Linard. La primaire a tous les défauts de la terre, mais au moins à la fin, il n'y en a plus qu'un, écrit l'éditorialiste qui ajoute dans la réponse à ces questions, unité ou division, nous verrons si le virus de la bêtise contamine encore la droite ou si le fait d'avoir été positive à tous ces variants l'a enfin immunisé.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.